je regarde une maison comme celle-là, là. Lui, il cherche à vendre. On va se le dire, là. Ça se vendra pas, là. C'est clair. C'est probablement par total. C'est ça. C'est un peu ça, là, notre réalité, là.
Alors, j'annonce à mes accros, c'est-à-dire Thérèse et Richard, que ça, je ne veux pas manquer ça ce soir à la télévision, Richard, les sinistrés. Et on parle évidemment du drame vécu depuis la rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Oui, ce soir, 20h, au grand reportage sur ICI RDI. Le 27 avril 2019, c'est une date que n'oublieront pas ces gens-là. Et la réalisatrice Sophie Lambert les a suivis. Déjà 9 jours après le
après 27, que tout le monde ait terminé leur reportage, ou à peu près. Hein?
Voilà. Parce que,
quand les caméras sont parties, 9 jours après, celle de Sophie Lambert est arrivée là.
Parce que les médias s'en vont une fois, hein, que ça a rebaissé, tout ça. Mais ces gens-là restent pris. Et on les suit au moment où ils retournent dans leur maison et constatent les dégâts. Et on a des réactions comme celle de 2 femmes qui retournent dans leur maison. C'est assez dur à écouter.
Moi, je vais pas voir. Je vais même pas voir.
Il y a plus de plafond.
Oh mon Dieu!
C'était
peut-être même pas sécuritaire d'être ici.
God, je pensais pas si ce serait de même pour de vrai, là. C'est fou, il n'y a plus de plafond. Oh my God. Là, c'est pire que ce que je pensais. C'est...
Qu'est-ce que tu as
vu? Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de mur, tout le J-Proc, tout est tombé.
Et là, tu vois des photos d'enfance, de famille qui flottent. Là, tu les prends vite, vite avec ton iPhone parce qu'il va falloir que tu les jettes. Là. Tu ne peux pas garder ça. Non, ça crève le cœur.
Moi, c'est ce qui m'a le plus touché. C'est bon, d'abord, il y a une image, à un moment donné, en accéléré, au début du documentaire, où tu vois, c'est comme, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui mettent la caméra, là, puis tu vois ouvrir les fleurs, là, parce que la caméra, elle a été là, mettons, pendant 48 heures, et tu la mets en accéléré, puis il se passe de quoi. Mais là, tu vois l'eau monter. Tu la vois monter, là. Et là, c'est, tu vois monter l'eau tranquillement. C'est comme une menace. C'est comme quelque chose qui... Et on le sait, là, il y a des gens, ça fait 27 ans qui étaient là, puis qui n'ont jamais été... Ils le disent.
Quand
j'ai
ils ont
jamais...
acheté, c'était non inondable. Mais non,
ouais. digue, bien
voilà
sûr.
Le problème. Voilà le problème. C'est que les gens qui étaient là n'étaient pas des gens irresponsables qui avaient été plusieurs fois
malgré
inondés.
Malgré ce qu'on a entendu.
Non,
ouais, c'est ça.
Non, ce sont des gens à qui on a dit « Vous êtes dans une zone... » non inondable. Ça a été une négligence. La digue a cédé. Ce n'est pas leur responsabilité parce qu'ils ont été s'établir de façon imprudente sur le bord de l'eau.
Mais non, parce que il y a un des gars qui disait, écoute, ça fait 27 ans, moi, je suis ici.
Oui.
J'ai jamais eu une goutte d'eau dans proche de ma maison. Alors, c'est ça.
Je trouve ça profondément injuste parce que c'est un accident, une rupture. De la digue qui a entraîné ça.
C'est sûr
ça.
Que vous allez avoir l'impression de revoir des reportages qu'on a vus abondamment.
Mais
il y a
pas
quelque...
tant que ça,
mais
il y a on quelque
chose.
Ouais,
on va plus loin. Et à un moment donné, au jour 12, il y a un des sinistrés qui dit, là, il rentre avec sa famille, puis là, ils sont tout habillés comme des tu sais, t'as l'impression qu'ils rentrent en laboratoire. Puis là, il dit, préparez-vous à l'odeur, les filles, parce que tout ce qui a été en contact avec l'eau, faut jeter ça à cause des coliformes et tout ça. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, puis je veux en parler, c'est Isabelle Boucher, qui a fait un témoignage extrêmement émouvant. Elle est assise dans ses escaliers. Tout son corps est recouvert, évidemment, de cet habit blanc, là, avec les gants et tout ça. Puis elle a son masque. Puis là, à un moment donné, elle pleure. Parce qu'elle a vu des bacs au sous-sol, des bacs de souvenirs, des photos, des trophées, tu sais, des médailles, des affaires que les enfants ont gagnées. Bref, tu devines là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On en a tous des choses comme ça. Et voici ce qu'elle dit.
J'ai encore des bacs, là, d'ailleurs, que je les ai juste ouverts, puis j'ai vu ce qu'il y avait dans le bac, j'ai refermé tout de suite. Je disais, oh non, je suis pas prête. Je me sens pas prête, puis ça sera pas moi qui va les jeter. Je vais donner ça à quelqu'un d'autre, puis je veux même pas voir item par item. Là, ça, je veux pas aller là. Puis peut-être qu'à l'avenir, je vais justement, ça me donne le pourquoi on garde ça, qu'est-ce qui fait qu'on garde toutes ces choses-là, puis ça nous, dans le fond, ça nous retient, ça nous freine.
Écoute, elle va jusqu'à se demander pourquoi on garde ça, tous ces souvenirs-là. Alors que ça part d'un coup. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup...
On
ça,
sent
c'est...
toute la détresse
ouais,
dans sa
détresse,
voix. Là.
Moi, je les comprends tellement.
Alors,
je...
rappelez-nous l'heure, et c'est à RDI.
ce soir, 20h, dans les grands reportages. Et Paul, rester ou partir? Là, c'est, les gens se posent cette question-là. En ce moment, il y a un citoyen, Marc-André Dewar, qui dit « Pour moi, Sainte-Marthe, c'est mort, c'est fini. » Lui, il vit avec sa blonde, leur bébé, leur chien. Il veut pas que son bébé grandisse en se demandant si la digue va encore sauter.
Moi, j'ai fait 3 ou 4 entrevues ici au Québec maintenant avec Mélanie Brière, qui est un peu celle à qui je demande quelle est l'évolution des choses. Et elle avait une maison, elle a des enfants, un conjoint, et soudainement, après une rupture accidentelle, non pas la montée naturelle des eaux, la maison ne vaut pratiquement plus rien. Et là, on avait dit au lendemain de la rupture, c'est arrivé le samedi soir, je ne l'oublierai jamais, c'est arrivé le samedi soir. Déjà le dimanche, le gouvernement promettait, on va donner des rachats, on va contribuer au rachat de votre maison jusqu'à hauteur de 200 000 $. Ça, c'est en fin avril. Là, on est arrivé à l'été, là, 21 juin, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel va être le montant alloué pour se débarrasser de leur maison. Parce qu'il y en a qui, comme celui que vous avez mentionné tout à l'heure, ne veulent plus. Ça a été traumatisant. Ils veulent s'en aller.
Il dit, je veux juste mettre le feu dans ma maison.
Ouais. Ils sont obligés de la payer pareil.
Voilà.
S'ils ont une hypothèque dessus, ils sont obligés de la payer pareil.
En plus, tu rentres là avec un masque, il faut que ça sèche. Tu sais la pluie qu'on a eue après, ça finissait plus de pourrir. Ça sent, mais ça sent le diable. Tu as peur d'avoir des coliformes, il y a des champignons qui peuvent... En tout cas, écoute, ça finit plus. Tu sais, on a vu des reportages beaucoup, mais peut-être, tu sais, à un moment donné, il faut être... Moi, j'ai une certaine empathie, là. Pour ceux qui vivent tout ça, là, parce que j'ai une grande empathie pour ceux qui vivent tout ça, indépendamment qu'ils restent près de l'eau ou pas près de l'eau. Il n'y a personne qui court après ça.
Voilà, exact. Tournage à Sudbury de la série mettant en vedette Hélène Florent, la série Eau Turbulente.
Et là, ça ne s'invente pas, Eau Turbulente.
Vous êtes concept aujourd'hui.
Ben oui, et pourtant, c'est pas drôle, mais bon. Une mini-série policière, oui, qui est tournée en Ontario. À Radio-Canada, dans les dernières années, on a vu beaucoup de fiction, hein, tournée en Acadie, en Ontario, entre autres. Et là, on est à Sudbury. Ça va mettre en vedette Hélène Florent, une auteure qui s'appelle Marité Morin. Et ça raconte l'histoire d'une enquêteuse qui a fait une grosse bévue, qui doit retourner dans sa ville natale de Queensbury. Et là, elle doit enquêter sur un meurtre. Il y a une jeune autochtone qui a été retrouvée assassinée près de la rivière qui longe la petite ville minière. Il y a plein de personnages, plein d'acteurs du coin qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qu'on va découvrir dans cette série-là. Et entre autres, deux acteurs amérindiens. Puis moi, j'ai posé la question, est-ce que vous avez pris des gens locaux, des Cris de Sudbury?
Ouais.
Et ils ont dit, on en a auditionné. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que souvent, ils n'étaient pas à l'aise avec la langue française et ils ne voulaient pas mettre la langue Cris nécessairement à l'écran avec des sous-titres. Alors, ils se sont retrouvés à devoir engager des autochtones du Québec.
Oui, mais avec ce que
Québec.
Tu nous as dit cette semaine, là,
oui?
Il va falloir qu'on soit plus expéditif dans l'embauche.
Oui, mais ils sont quand même autochtones. C'est des autochtones du Québec au lieu d'être de là-bas. Il y en a un qui vient de Wendake. Il y en a un autre, Charles Bender. Il y en a un autre qui vient...
Il y a des Ontariens.
Un Atikamek aussi.
Oui.
Oui, et deux Ontariens. Donc... Tu sais, je sais pas s'il va être question d'appropriation culturelle, là, parce que c'est pas des vrais Amérindiens de l'époque. Mais de la région. Mais en tout cas, quand même, ils ont fait un effort pour essayer.
Il y a un danger.
Ben, merci à vous deux. Merci, Richard.
Ça va être à l'automne, ici, RTV, puis plus tard, ici, Télé.
D'accord. Alors, Richard, merci. On se revoit demain. Thérèse, on se revoit dans une heure. Et j'ai hâte de parler du changement de nom de la rue Amherst. Ça va être le nom, semble-t-il, un nom qui va rendre hommage probablement à ceux que Amherst avait voulu exterminer.
Et moi, j'ai très hâte d'entendre Gilles te parler de Amherst.
Oui.
Parce que moi, il m'a déjà parlé de Amherst.
Oui, moi
et
aussi,
c'est pas plate.
Mais c'est pour ça que je l'ai invité. Lui, il est capable de dire que c'était qui le bonhomme.